Courte actualité pour commencer cette émission, et aussi parce que les auditeurs cherchent à comprendre ce qui se passe, notamment sur nos antennes de France Culture et du groupe Radio France. Courte actualité autour de la grève qui a lieu cette semaine, qui continuera probablement peut-être demain. Zoé Sfez, quelques points. Alors évidemment, on est jugé parti. On va essayer d'être assez neutre, à la fois par rapport aux positions des syndicats et à celles de la direction.
Oui, alors un petit rappel factuel, donc ce mouvement de grève continue puisqu'il y a des syndicats, la SNG, la CFDT et Sud qui avaient appelé à une grève donc du 25 au 29 novembre, c'était de lundi à vendredi dernier, et que la CGT a voté vendredi la poursuite de la grève jusqu'à donc lundi 2 décembre, c'est demain. Alors la mobilisation avait un peu fléchi en milieu de semaine, elle est remontée en fin de semaine, et puis vendredi il y a 200 personnels de Radio France qui ont manifesté place Colette pour alerter la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Culture, Franck Risser, sur la situation ici. Et puis en parallèle de ce mouvement, il y a eu, je fais le petit rappel de toutes les informations qui sont parvenues sans doute à nos auditeurs, une tribune signée par plus de 100 collaborateurs de Radio France, intitulée « Faire plus avec moi ne marche nulle part », et puis
parue dans le Monde.
Ça c'était jeudi soir et dans le Monde papier de vendredi, et puis une autre tribune qui émanait, elle, de la part des journalistes et qui était intitulée « Oui, Radio France a le choix », et ça c'était vendredi.
Alors que contestent les syndicats? D'abord le plan dit de transformation, essentiellement ce plan de transformation détaillé par la PDG de l'entreprise Sybille Veil le 14 novembre dernier. Ce plan prévoirait 236 départs volontaires d'ici 3 ans. La direction de l'établissement, comprenant notamment les fonctions d'accueil, de courrier, d'entretien, serait amputée d'une cinquantaine de postes. Le cœur de Radio France, qui est un cœur professionnel, devrait perdre une trentaine de choristes sur 90. La documentation perdrait, elle, 28 postes, les techniciens supérieurs à peu près le même nombre. Les journalistes seraient également concernés avec 17 postes, dont 4 pour FIP qui perd ses journaux, avec également la fermeture annoncée de certaines antennes locales ou de bureaux régionaux.
Mais en parallèle, il y a plusieurs dizaines de postes qui seraient censés être ouverts au numérique. Donc il s'agirait d'engager sur la question du numérique. Alors ce plan, explique la PDG Sybille Veil, est nécessaire parce que d'ici 2022, eh bien, il y a 60 millions d'euros qui vont manquer au groupe Radio France, explique la PDG. 20 millions d'euros à la demande de l'État qui a réduit sa participation, 20 millions d'euros qui sont liés à une augmentation automatique des charges, on le connaît, c'est un problème auquel plusieurs entreprises doivent faire face, et 20 millions d'investissements que Sybille Veil veut dédier à l'investissement en faveur du numérique. Parmi les clés que la présidente avance, eh bien, il y aurait 5 millions d'euros d'économies qui pourraient venir de coûts de diffusion et le double qui pourrait venir du redéploiement des moyens. Je cite le rapport de Sybille Veil.
Alors, pour l'intersyndicale, il n'y a pas, les comptes ne vont pas, il n'y a en fait pas de justification économique à ce plan, selon les syndicats. La CGT, par exemple, qui appelait à la reconduction de la grève, rappelle que les suppressions de postes auraient aussi pour conséquence, dès 2020, je cite, l'augmentation du recours à des précaires sans possibilité d'embauche par la suite. Elle dit encore, la CGT, la mise en difficulté de l'encadrement avec un risque de transfert de la pression sur les salariés. Elles indiquent aussi que pour atteindre de telles économies, les congés, le compte épargne-temps et l'organisation du travail devraient aussi être touchés. Cependant, le texte actuel de la direction n'évoque plus ces différents points.
Oui, et puis au cours des assemblées générales, les différents syndicats ont rappelé que le groupe a atteint des audiences historiques, ça on le sait cet automne, et qu'il a déjà surtout fait de gros efforts depuis 2015, puisqu'il y a 280 emplois qui ont été supprimés depuis 3 ans au fil des départs à la retraite, de manière plutôt discrète, que Radio France assume un tiers du coût de son chantier de réhabilitation, qui est un chantier qui aura coûté en fait 3 fois son coût initial, et puis preuve des efforts réalisés, du retour à l'équilibre financier avec un bilan excédentaire de plus de 7 millions d'euros. Radio France a rendu de l'argent à l'État en payant l'an dernier 1,5 million d'euros d'impôts sur les sociétés. Au-delà même de ce plan, en fait, en Assemblée Générale et dans les deux tribunes que j'ai citées, la crainte qui est sous-jacente, c'est que le gouvernement, qui a déjà présenté une loi audiovisuelle et une réforme pour l'audiovisuel public, eh bien, n'a toujours pas donné de réponse à la question comment est-ce qu'on va financer cette réforme. Cette réforme, vous la savez, prévoit la création d'une holding qui rassemble tous les médias publics, à l'exception d'Arte et de TV5 Monde. Après la fin de la redevance, on le sait, la redevance telle que nous la connaissons, indexée à la taxe d'habitation, elle disparaît en 2022. Et on n'a toujours pas de clé pour savoir comment cet audiovisuel public va être financé. Alors Christophe Castaner s'était déclaré au printemps dernier hostile à la mise en place d'une nouvelle redevance. Et si elle devait être supprimée, eh bien il n'y aurait plus de garantie d'indépendance ni de budget pérenne, dénoncent les syndicats. La question du financement est donc une question politique, affirme-t-elle, d'où la nécessité de manifester en face du ministère de la tutelle. dit-elle. Ça, c'était vendredi.
Alors la présidente de Radio France, Sybille Veil, s'est exprimée à deux reprises sur ce conflit, sur cette grève en cours, dans un mail d'abord adressé directement aux salariés mi-novembre. Madame Veil dit préparer l'avenir pour que Radio France continue de conquérir, pour être toujours demain la référence de service public, ce que nous sommes aujourd'hui, dit-elle, dans un contexte financier qui, vous le savez, est très contraint. Fin juin dernier, sur France Inter, le ministre de la Culture, pour sa part, Franck Riester, avait appuyé cette démarche en déclarant notamment que c'est quand ça va bien qu'il faut se transformer, qu'il faut savoir se transformer. C'est un effort que je ne sous-estime pas, déclarait le ministre de la Culture, mais qui est tout à fait acceptable, possible pour l'audiovisuel public et pour Radio France en particulier. Ce sera un plan de départ volontaire. Je fais toute confiance en Sybille Veil et en son équipe.
Ouais, Franck Riester qui s'est à nouveau exprimé donc vendredi sur RMC et sur BFM TV, qui est resté ferme sur ses positions. L'effort qu'on demande à Radio France est un effort soutenable, dit-il. C'est un effort de 20 millions d'euros. Alors là, il évoque simplement les réductions demandées par l'État et donc pas les 40 autres millions nécessaires dans ce plan. Il se trouve que Sybille Veil, dit-il, et ses équipes ont proposé un plan de transformation qui permet certes effectivement de faire un certain nombre d'efforts pour tenir compte de ce qui est demandé par l'État et en même temps d'investir. Alors sur la question de la redevance, Franck Riester lui a essayé d'être rassurant. Il a indiqué que c'était la solution que le gouvernement souhaitait privilégier. La question en revanche du mode de calcul et de collecte n'est toujours pas actée, reconnaît-il. Et puis Sybille Veil, il faut le rappeler, vendredi a répondu aux questions de la médiatrice de Radio France. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur le site de France Info.
À suivre dans Soft Power, émission spéciale ce soir sur la COP25 qui commence demain à Madrid. Et nous avons choisi dans Soft Power de parler de l'écologie et plus particulièrement de ses penseurs ce soir. Les penseurs de l'écologie, notamment dans la culture et le numérique, et plus largement d'ailleurs ceux qui influencent le débat public sur l'écologie. Mais juste avant, et pour clore, cette courte séquence d'actualité ce soir, un mot sur la très belle comédie musicale. Vous en reconnaissez la musique d'ailleurs, un Américain à Paris qui débute ce soir au théâtre du Châtelet de Paris. Elle durera jusqu'au 1er janvier. Alors comme à Broadway où cette nouvelle version a été créée, l'œuvre de George et de Ira Gershwin, qui avait déjà été donné lieu bien sûr à un film célèbre de Vincent et Minnelli avec Gene Kelly, 1951, qui avait d'ailleurs été créée, la version comédie musicale, pour la scène au théâtre du Châtelet avec une chorégraphie de Christopher Wildon, est encore une fois rajeunie dans cette nouvelle mise en scène lumineuse. Ce qu'on adore dans ce spectacle, c'est le travail sur les projections, les objets qui se reflètent, les décors époustouflants ainsi imaginés. Et c'est très nouveau de voir ça sur une scène, et pas seulement d'ailleurs au Théâtre du Châtelet. La distribution originale, très différente de Broadway, à une ou deux voix près, est de haut niveau, tout comme l'orchestre, en tout cas tel qu'on l'a vu dans une générale hier soir. Pour ceux qui aiment la comédie musicale, c'est sans doute le spectacle à voir pour les fêtes, sans conteste le plus fort et le plus feel good, comme on dit, on se fait plaisir. Alors qu'en revanche, on a été incroyablement déçus par le spectacle musical sur Michael Jackson baptisé Forever au Casino de Paris, où sans histoire et sans aucun talent d'incarnation, le génie de Ben est comme réassassiné une nouvelle fois, 10 ans après sa mort, et par ceux même qui prétendent l'honorer. Alors quand un Américain à Paris est tout en finesse et en couleurs subtiles, Forever est dithyrambique et sans aucune nuance, bien que validé, dit-on, par la famille même du roi de la pop. Alors heureusement, on attend une nouvelle production pour Broadway autour de Michael Jackson. Elle sera intitulée MG, peut-être comme Michael Jackson, The Musical, qui doit débuter le 6 juillet prochain. La production s'annonce alléchante, celle-là, contrairement à la version parisienne. Elle sera écrite par Lynn Nottage, une dramaturge américaine qui a déjà gagné 2 prix Pulitzer, et mise en scène et chorégraphiée justement, et vous verrez comment en radio, c'est ce qu'on appelle boucler la boucle, par Christopher Wildon, qui a gagné un Tony Award pour justement un Américain à Paris.
Wow.
Forever au Casino de Paris, la dernière était hier soir, mais le spectacle revient le 4 janvier à la scène musicale à Boulogne et en tournée un peu partout en France. Un Américain à Paris, au Théâtre du Châtelet jusqu'au 1er janvier.